Retrouvez Dear Veil People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble. Et bienvenue, chers auditeurs, pour ce troisième épisode de la saison 2 de Dear Veil People. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la situation du confinement pour les personnes en situation de handicap. Après avoir parlé avec Amel Garcia et Menzo de Winter au niveau local, comment ça a pu se passer et quel type de partenariat il a pu avoir entre ces deux protagonistes. Aujourd'hui, nous allons centrer notre attention sur les besoins d'un individu. Aujourd'hui, pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Garcia. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, je vous remercie.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous faites dans la vie, ce genre de choses?
Très bien. Alors, je m'appelle Rémi Garcia, j'ai 39 ans. Je suis gérant depuis presque 10 ans d'une société de services à la personne qui accompagne surtout les personnes en situation de handicap dans leur vie privée, professionnelle, étudiante, leurs loisirs, et tout ce qui va concerner la compensation de leur handicap au quotidien. Ensuite, moi-même, effectivement, je suis en situation de handicap, donc je suis tétraplégique, et donc mes besoins, ils sont assez importants en termes d'aide humaine au quotidien, ils représentent environ 15 heures par jour d'aide humaine.
Peut-être pour recentrer, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est être tétraplégique pour nos auditeurs?
Oui, donc la tétraplégie à la base c'est l'immobilité et l'incapacité de pouvoir agir sur ses quatre membres, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Moi je suis incomplet, c'est-à-dire que j'ai la capacité à utiliser quand même mes membres supérieurs, au moins en partie, mais par contre je ne marche pas du tout. Donc je me déplace en fauteuil roulant électrique, donc ça signifie que j'ai besoin d'une aide humaine relativement importante pour tous les gestes quotidiens, se lever, se coucher, s'habiller, etc., etc.
En temps normal, cette organisation de l'aide humaine, comment ça se passe?
Alors, en temps normal, la chance que j'ai, c'est que je suis mon propre prestataire d'aide à la personne à domicile au quotidien. Donc, j'ai des intervenants qui m'accompagnent dans un cadre de planning de fonctionnement, qui m'accompagnent sur des heures de besoin que j'ai le matin, le midi, le soir et la nuit, en fonction de mes attentes et en fonction de mes spécificités. Donc c'est une équipe qui tourne 7 jours sur 7 et sur une base de 24 heures de fonctionnement puisqu'il y a le jour et la nuit.
D'accord. Et pendant la situation de confinement, quelles ont été les principales modifications de cette aide humaine?
Donc nous, pendant ce confinement, nous avons dû déjà très réactif avec peu de moyens techniques, c'est-à-dire pas trop de masques, du gel hydroalcoolique à surveiller les stocks, car on n'en avait pas non plus des masses. Du coup, on a dû organiser pour moi ou pour les autres, puisque on fonctionne pour tout le monde pareil, sur des accompagnements qui sont au cas par cas. On a dû resserrer un maximum les interventions, dans le sens où on mettait le minimum d'intervenants chez chaque personne, en augmentant parfois les contrats de certains qui étaient motivés, qui voulaient travailler, qui étaient volontaires pour travailler davantage. Donc l'objectif, c'était de créer des équipes d'intervenants qui n'avaient pas son vase clos, on va dire, c'est-à-dire qu'un bénéficiaire, une personne en situation de handicap à domicile, qui avait besoin de continuité pendant le confinement, c'était le cas pour 95% de nos bénéficiaires à SoLife. On a donc créé une équipe qui a tourné que chez cette personne à chaque fois. Donc du coup, ça permettait de délimiter les risques. Et si on avait un cas de Covid dans une équipe, ça ne se propageait pas à l'ensemble du service. Donc forcément, on a en réalité augmenté les temps de présence sur place, parce qu'il y a des personnes qui avaient plus de mal à rester seules en temps de confinement que d'habitude. Et du coup, on a trouvé un équilibre en une semaine à peu près, pour que tout le monde soit en sécurité, en confiance, et que les intervenants eux-mêmes se sentent à l'abri et qu'on minimise les dangers de Covid vis-à-vis d'eux également.
Je suppose que en ce temps de confinement, les auxiliaires de vie ont eu un rôle de support physique, mais pas uniquement, aussi de support moral, je dirais.
Exactement. Il était ultra nécessaire d'avoir des personnes, des salariés en qui on a confiance, qui ont également confiance en nous, et qui soient dans une organisation qui rassure tout le monde. Et les temps de présence à domicile étaient aussi pour rassurer les personnes, surtout au départ, sur des moments un petit peu difficiles où les personnes se sont senties très seules, plus de famille, plus d'amis, plus de contacts avec l'extérieur, du moins avec des contacts physiques. Donc pour certaines personnes qui étaient déjà dans un certain isolement social, ça rajoutait un petit peu à leur situation de handicap social. Donc les intervenants ont eu un double rôle d'accompagnant dans les gestes de la quotidienne et de compensation du handicap, mais aussi de surveillance et de moteur pour rassurer et mettre en place voilà, une vie la plus paisible possible pour nos bénéficiaires.
Le fait d'avoir eu accès à un seul auxiliaire pendant le temps de confinement, quels sont les pour et les contre que ça a pu donner? Je suppose que pour vous, en termes d'organisation, ça pouvait être relativement compliqué de mettre une personne tout le temps, tous les jours, sur un même foyer, ou comment ça s'est passé?
Alors en fait, c'est pas forcément qu'il y avait un seul intervenant qui intervenait en permanence, parce que ça, le code du travail ne nous l'aurait pas permis, mais c'est de créer des équipes qui vont tourner avec des temps de présence maximum. C'est-à-dire qu'au lieu de, par exemple, de faire les 3-8 sur un accompagnement classique où la personne va venir, il y aura une personne qui viendra le matin, une l'après-midi et l'autre la nuit, et bien là on faisait 2 fois 12. Donc on limitait en fait le nombre d'intervenants qui venaient, mais il y avait quand même un rythme d'intervention qui était le plus optimisé possible. Donc chaque intervenant n'avait qu'un seul bénéficiaire, mais un bénéficiaire pouvait avoir plusieurs intervenants. Et ces intervenants avaient aussi la consigne d'avoir des consignes hyper strictes au niveau du Covid, avec des consignes qui étaient à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur du domicile, et toute une procédure qui a été mise en place par notre référent Covid, Amel Garcia, qui a fait un travail du coup très intense et très fourni sur comment on va limiter au maximum la rentrée du Covid à domicile, qui était notre cheval de bataille numéro 1. Et ce, sans masque, avec des gants, du gel, mais sans masque, donc c'est pas forcément évident. On a pu trouver après une solution assez rapidement avec un fournisseur de masques qui nous a beaucoup aidés. Mais c'était des masques, on va dire, qui étaient assez sommaires dans un sens, et également artisanaux. Mais l'objectif, c'était voilà, de réduire les équipes chez le bénéficiaire, mais il n'y avait pas qu'un seul intervenant chez eux. Ils en avaient plusieurs, qui tournaient de façon permanente. Donc pour l'organisation, pour répondre un peu plus à la question, pour l'organisation, ce n'était pas forcément plus difficile quand on a trouvé un rythme de croisière et une organisation qui est stable, parce que les intervenants étaient, et ça on le remercie encore, ils ont été très solidaires avec l'entreprise, ils ont été vraiment aux petits soins avec les bénéficiaires, ils ont vraiment dû respecter des protocoles sanitaires très lourds et plus lourds que ce que demandait le gouvernement, parce qu'à domicile on a près de personnes fragiles et la situation peut vite être complètement dramatique. Et du coup, ils ont fait beaucoup plus d'heures que d'habitude dans un environnement qui n'était pas tout le temps simple. On a organisé parfois aussi leurs déplacements quand ils venaient de loin. C'est nous-mêmes qui les transportions avec notre service de transport adapté pour pas qu'ils aient à utiliser le transport en commun, que ce soit le bus ou le tram, et éviter encore une fois le contact avec le Covid potentiellement. Et du coup, une fois qu'on a trouvé ce rythme de croisière, les intervenants ont été toujours présents. Je crois qu'on a eu quasiment aucun arrêt de travail pendant toute la période de confinement.
Bravo à vous. Pour se recentrer un petit peu sur vous personnellement, comment s'est rythmé cette période de confinement pour vous entre vie professionnelle, vie personnelle et tout ça au sein de votre foyer finalement?
Alors c'est vrai que moi, mon épouse, elle est également en situation de handicap. Du coup, il est certain que... Et en plus, on travaille dans la même entreprise. Donc le rythme et on va dire les journées étaient rythmées plutôt par le travail, par les besoins qu'on avait, par les différentes réunions qu'on avait avec des prestataires, avec des partenaires, avec des familles ou des personnes, pour assurer, pour mettre en place, pour vérifier que tout ce qu'on a décidé était bien acquis, était bien mis en place par les salariés, pour organiser aussi et mettre en sécurité nos chauffeurs qui ont fait un travail incroyable, parce qu'il fallait ravitailler les gens en course, en eau, il fallait amener leurs salariés à leur domicile. Donc il y avait un gros besoin de coordination qui était un peu au jour le jour, surtout au début. Donc à vrai dire, les week-ends et les jours fériés, on n'a pas trop fait cas, on savait plus trop quel jour on était à un moment donné et quelle heure il était aussi parfois. Donc on était vraiment la tête dans le guidon. C'était pas plus mal, hein, comme ça, on cogitait pas sur le fait qu'on était un petit peu privé de notre mobilité et de notre liberté. Plus tard, parce que le confinement a duré un certain temps, plus tard, quand on a trouvé des rythmes de croisière, donc il y avait toujours un travail de fond qui était à faire et on l'a mené du mieux qu'on pouvait. Moi, personnellement, ensuite, je ne suis pas trop impacté par le fait d'être confiné, dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui a absolument besoin de sortir en permanence. Effectivement, comme tout le monde, j'aime ma liberté de pouvoir sortir de chez moi et me déplacer quand je veux, mais en étant contraint de cette façon-là, c'était pas un problème réellement pour moi. J'ai pu faire autre chose, j'ai profité pour faire une formation dans un domaine de compétences qui n'était pas le mien au départ, j'ai pu profiter pour un peu de temps pour faire autre chose, et puis je me suis reposé aussi à certains moments, tout simplement, donc c'était pas forcément un mal, en tout cas j'ai trouvé un intérêt dans le confinement, on va dire ça comme ça.
Oui, se reposer, il paraît que c'est important, et vous n'êtes pas le seul, je pense, à en avoir profité pour prendre une pause. Vous avez parlé de plusieurs choses, donc il faut que je remette les choses dans l'ordre. Vous avez trouvé donc une liberté autrement, via ces formations, en prenant notre rythme différent aussi. Donc je suppose que le travail à distance et la technique vous ont apporté beaucoup.
Oui, c'est vrai que petit à petit, j'ai dû me créer une installation plus professionnelle à mon domicile, parce qu'au départ, on se dépatouillait avec les moyens du bord, mais c'était contre-productif, c'était fatigant, c'était pas adapté à mon handicap, et du coup, c'était encore plus fatigant. Mais du coup, petit à petit, on a pu acheter ou récupérer des éléments qui nous permettent d'être dans une meilleure condition de travail. Ça nous a appris aussi à nous organiser à distance. Avec nos collaborateurs administratifs qui étaient tous en télétravail. Donc ça nous a permis de trouver une nouvelle adaptation et une nouvelle méthode de travail si jamais un jour on est dans une situation où on est obligé de fonctionner ainsi. Donc ça, c'était pas le plus compliqué. Il a fallu simplement s'adapter et mettre en œuvre voilà, les éléments pour être bien.
Et aujourd'hui que la situation est pas normale, je dirais, mais ce qu'on nous ne sommes plus en confinement, est-ce qu'il y a toujours des méthodes de travail que vous avez gardées aujourd'hui et que vous avez appris pendant le confinement?
Oui, c'est-à-dire que par le passé, quand je pouvais travailler chez moi, je travaillais avec un petit ordinateur portable, avec un écran minuscule, et du coup je me disais que c'était que pour 1 heure ou 2, donc c'était pas intéressant ou c'était peut-être pas opportun de m'équiper correctement. Chose que là, maintenant, j'ai gardé l'équipement que j'avais mis en place chez moi, donc notamment un bureau qui était plus adapté et un écran beaucoup plus grand pour pouvoir travailler plus correctement et un peu plus droit. Donc j'ai gardé. Je ne sais pas si c'est pas forcément les méthodes, mais j'ai gardé surtout l'organisation technique et technologique qui m'a servi à travailler pendant le confinement.
Vos collaborateurs au niveau du travail avec la visio, est-ce qu'il n'y a pas eu de difficultés au départ au niveau de la technique justement et de la capacité à pouvoir utiliser ces nouveaux outils correctement?
Alors, l'avantage, c'est que dans l'organisation administrative, on travaille par binôme la plupart du temps. Enfin, ils travaillent par binôme. C'est-à-dire que on a un pôle qui s'occupe des plannings, des contrats et du quotidien, qui sont les responsables du secteur, donc ils travaillent à deux. On a un pôle qui va s'occuper plus de la facturation, de la comptabilité, de la gestion, donc ils travaillent à deux. Et ensuite, moi, je m'occupais davantage du pôle organisationnel et stratégique. Et là, je travaillais avec deux autres personnes. Donc finalement, en travaillant dans des sous-équipes, dans une grande équipe, et comme on s'entend tous très bien et qu'on se connaît très bien, ça facilite forcément les relations et les réunions. Et du coup, on n'a pas du tout senti de difficultés. Au contraire, on a même deux collaborateurs qui sont restés on va dire entre guillemets, en mode confinement, en télétravail, jusqu'à une mi-juin et l'autre fin juin, c'est-à-dire bien un mois et demi, voire 2 mois après la fin du confinement. Donc, c'était une bonne expérience, ça nous a rapprochés aussi, je pense, les uns les autres, finalement. Et puis, ça nous a permis, voilà, de trouver d'autres moyens de travailler, avec, en créant des groupes WhatsApp, avec de la visio, avec tout un tas d'éléments qui étaient plus faciles. Et comme on allait aussi droit au but davantage, puisque tout ce qui était projet en cours, ils ont forcément été stoppés, on va dire que la matière qu'on traitait était aussi moindre qu'avant le confinement, forcément.
Finalement, le confinement a permis aussi d'avoir une meilleure cohésion de travail ou de l'améliorer encore plus qu'elle ne l'était déjà. Donc, il y a du positif à prendre de cet événement.
Tout à fait. Et aussi parce que on a aussi des partenaires, qu'ils soient institutionnels ou privés, qui ont aussi allégé, on va dire, leur procédure habituelle. Et donc, du coup, ça nous a facilité aussi un petit peu la vie. Je pense que comme tout le monde voulait simplifier la vie, ça a finalement simplifié la vie des autres également. Donc on a profité aussi de tout ça. Et puis on avait des délais plus longs pour rendre certains éléments administratifs qu'on a de façon quotidienne, ou plutôt hebdomadaire ou mensuelle. Mais c'est vrai que la cohésion d'équipe entre nous a sorti grandissant, enfin grandi, et c'était plutôt agréable à ce niveau-là.
Sur cette bonne nouvelle, il est l'heure de notre pause musicale, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le titre Résistance du groupe britannique Muse. Bonne écoute, chers auditeurs. On se retrouve juste après. De retour, chers auditeurs, sur Dear Veil People, épisode 3, où nous continuons à discuter de la situation du confinement en compagnie de Monsieur Rémi Garcia. Vous allez toujours bien?
Tout va bien, très bien, merci.
Juste avant la pause, on parlait de son impact sur sa vie professionnelle en tant que gérant d'une agence prestataire pour service à la personne. Maintenant, nous allons un peu plus nous concentrer sur votre vie personnelle. Est-ce qu'on, en situation de confinement, est-ce qu'on arrive à réellement avoir du temps personnel de loisirs et à couper avec le temps professionnel?
Ce qui est certain pour moi, alors, c'est qu'il faut faire ce travail-là. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire naturellement. Il va falloir, et c'est ce qu'on a fait avec mon épouse, au bout d'un moment, se dire bon. Là, c'est bien, on a géré une urgence pendant un certain temps. Maintenant que l'urgence n'est plus présente, enfin, pour le moment du moins, nous allons organiser les choses différemment et reprendre davantage des heures de travail et couper un certain moment, sinon on va faire que ça et on est complètement pris et absorbé par le quotidien du travail et par tous les actes qu'on peut faire à droite à gauche. Et si on ne met pas le holà pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres qui nous contactent, il est certain qu'on se laisse absorber. Et on ne comprend pas pourquoi on est fatigué, mais quand on prend du recul, c'est très clair, ça impacte sur la vie personnelle, les relations de couple, les temps personnels de loisirs, et tous les moments qu'habituellement, on met à mal, ou on met à bien plutôt, à organiser de façon très concrète.
On a pu l'entendre plus d'une fois dans les médias pendant le confinement. On a parlé aussi des outils techniques tels que les outils de visio. Est-ce que ça vous a arrivé d'utiliser ces outils sur des temps plus personnels et pas uniquement sur des temps professionnels?
Oui, ça a dû m'arriver, mais je n'ai pas souvenir que j'ai utilisé beaucoup. Ça a dû m'arriver pour voir de la famille un peu lointaine, genre une fois par semaine, mais c'était pas. Je suis plus passé par le téléphone. La visio, je ne l'ai pas trop utilisée dans mes temps personnels.
Et au final, quelles ont été vos activités de loisirs pendant le temps de confinement auxquelles vous n'auriez pas pensé pendant une période normale?
Alors, ils étaient plutôt restreints, puisque moi, je me suis contenté d'un confinement très strict, c'est-à-dire je ne sortais pas. Donc, je ne mettais pas un pied dehors, je n'ai pas mis un pied dehors depuis entre la mi-mars et début mai, parce que pour des raisons sanitaires vis-à-vis de mon épouse, pour des raisons d'organisation, il faut tout nettoyer, et le fauteuil, et les sols dès qu'on sort. Je n'avais pas le besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, je vis bien plutôt ce relatif enfermement. Du coup, j'avais pas ce besoin-là. Pour les loisirs, c'était plutôt des loisirs qui tournaient autour, voilà, sur des loisirs entre nous, ça peut être sur du cinéma, enfin cinéma à domicile bien sûr, ça peut être également sur des temps à partager avec nos familles respectives, ça va plutôt être des moments comme ça. Il n'y en a pas eu de nouveaux qui sont apparus en tout cas, simplement ces temps ont été réduits, surtout au début, et on a progressivement grignoté sur les temps de travail pour revenir à quelque chose d'un peu plus normal. On n'a pas eu de loisirs nouveaux, en tout cas, qui ont été déclenchés par le confinement.
Pour revenir à vous et sur une vision plus médicale, est-ce que vous êtes considéré comme personne fragile, personne vulnérable?
Oui, alors moi, du fait de ma pathologie principale, la tétraplégie, j'ai une capacité respiratoire qui est de 50%. Donc même déjà la grippe, pour moi, c'est une situation à risque. La pneumonie, enfin, d'autres maladies respiratoires. Donc, au vu des conséquences de la Covid qui peuvent être un petit peu assujetties à la roulette russe, effectivement, si jamais j'ai une situation sévère, ça peut être très facilement dramatique, ou au moins des souffrances qui vont être assez lourdes et longues. Donc, mon épouse étant encore plus fragile que moi, c'est pour ça que je me suis restreint aussi à une règle de confinement total et ne pas rajouter des possibilités de contact avec le Covid, en plus de ceux que j'ai eus avec mes intervenants qui venaient à domicile.
Est-ce que c'est une pression de vivre avec ce risque au-dessus de la tête ou pas?
Je ne ressens pas une pression particulière, parce qu'on met en place beaucoup de choses pour éviter d'être contaminé. Maintenant, vu qu'on est quand même à un point de geste barrière qui est assez évolué, je me dis que voilà, si on l'attrape avec tous ces gestes-là, on l'aura attrapé quoi qu'il arrive, parce que là, on peut pas. Sinon, on reste confiné, enfin, on reste en prisonnier chez nous. Mais comme on ne connaît pas la durée ni la dangerosité actuelle du virus, s'il mute pas, enfin, on ne connaît pas ses caractéristiques exactes. Au moment où je vous parle, je ne sens pas de pression parce que j'estime mettre tout en œuvre pour arriver à le contrer, ou à faire barrière plutôt.
Et par rapport à vos bénéficiaires, je suppose que certains sont à risque aussi. Est-ce que ça vous donne une responsabilité supplémentaire envers eux?
Oui, ça c'est plus ça qui me met la pression. C'est-à-dire qu'on a toujours peur, notamment quand on réorganise les plannings de certains de nos bénéficiaires avec des intervenants nouveaux qui n'ont pas travaillé pendant le confinement, donc qui n'ont pas tout l'acquis d'expérience du confinement qu'on a mis en place. Il est certain que ça peut nous donner certaines sueurs si jamais on voit que les choses ne sont pas respectées correctement. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que la plupart de nos bénéficiaires ont toutes leurs capacités cognitives et sont conscients du danger. Ou s'ils ne le sont pas, ils sont en famille, donc il y a la famille qui est là pour veiller au grain, si je peux m'exprimer ainsi. Donc à ce titre-là, je suis quand même relativement serein en me disant qu'il y a quand même un enrichissement, une structure qui est mise en place, que les bénéficiaires connaissent les dangers et eux-mêmes font attention pour eux-mêmes, et qu'on n'a pas de tête brûlée qui voudrait se dire, bon bah voilà, je fonce dans le tas, on verra bien ce qui se passe. Et nos intervenants ont aussi des consignes très strictes pour pouvoir intervenir à domicile. Donc en général, tout le monde tire dans le même sens à ce live. Donc ça, c'est plutôt bien pour l'ensemble de nos bénéficiaires.
Pour terminer sur une bonne nouvelle, quelle est la statistique de bénéficiaires qui ont dû avoir accès à des services médicaux pendant le confinement?
Des services médicaux comme quoi, par exemple?
Comme le SAMU, service hospitalier.
Dans nos bénéficiaires, on en a eu 2 sur 60. Alors, je ne sais pas ce que ça fait comme proportion. Donc ça fait très peu. Même c'est quand même, c'est quand même, c'était quand même assez stressant. Et surtout là, on s'est fait opérer de quelque chose qui n'a rien à voir avec le Covid. Et ça s'est très bien passé, va très bien. L'autre, il avait des problèmes avant les problèmes de Covid, ce confinement depuis longtemps, des problèmes respiratoires. Et du coup, là, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Il est resté un petit moment à l'hôpital, sans pouvoir qu'on vienne le voir, sans vision de quelqu'un de l'extérieur. Donc ça, c'était assez dur. Et tout ce qu'on a pu mettre en place pour essayer d'avoir des relations avec lui, c'était vraiment très, très difficile. Donc ça, c'est peut-être la situation qu'on a le moins bien vécue pendant le confinement.
Et aujourd'hui, tout va bien et on leur souhaite un bon rétablissement. Chers auditeurs, cela sonne la fin de ce troisième épisode de Diabète Paul. Je remercie Monsieur Garcia d'avoir accepté mon invitation. Au fil de l'épisode, vous avez pu entendre le nom de Amel Garcia. En effet, il s'agit de la Amel Garcia de l'épisode précédent. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire et vous pourrez connaître un peu mieux ce qui s'est passé en termes de partenariat pour avoir notamment des masques et le matériel de premier secours à SoLife. SoLife, la société gérée par Monsieur Garcia de service à la personne. Je vous invite aussi à aller chercher des informations sur Internet. Pour le prochain épisode, nous allons terminer cette série sur le confinement avec un entretien avec une auxiliaire de vie de SoLife, histoire de compléter notre thématique mensuelle. Je vous souhaite une bonne journée, chers auditeurs, à bientôt.
Merci, au revoir.
Suivez Dear Valley People sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.